Bonsoir André.
Bonsoir Dédé.
André, tu animes des oreilles avec des trous dedans.
Avec toi, cher Dédé, oui, absolument.
Avec moi aussi, c'est vrai.
Et avec Dédé de la Sayette qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là dans quelques semaines. Voilà, il était obligé de s'absenter, mais il va revenir très vite.
En super forme. Enfin, j'espère. Et vous écoutez aussi Radio Bazarnaum à Caen et tout ça et tout ça.
Oui. Alors attendez, il faut que je vous dirai tout à l'heure. En tout cas à Paris, Radio Libertaire c'est 89.4, vous êtes dessus. Ou alors vous êtes sur notre site internet qui s'appelle desoreilles.free.fr, tout simplement.
Voilà. Et alors cette semaine, nous avons une de nos thématiques dont nous avons le secret.
Oui. Que on va pouvoir introduire avec un morceau de ton choix ou de mon choix.
Ah bah j'ai une sorte de perle pour commencer, je pense.
Ah bah alors vas-y donc.
Ouais, enfin disons que pour introduire le sujet, c'est assez bien parce que ça s'appelle Teenage Bill of Rights. Déclaration des droits de l'adolescent, on peut traduire
ouais.
Et je vous dirai ce que c'est après. Ah non, je vous le dis maintenant. Alors, enfin, plus ou moins. Alors, non, parce que en fait, tu m'as dit que tu l'avais pas trouvé ce morceau et c'est c'est en fait de Zappa. Alors oui. T'as jamais, oui, ça te dirait absolument rien. Écoute, ça sera un morceau qu'il a composé, j'en parlerai, enfin pour un acteur en fait qui s'appelle Burt Ward, qui a été l'acteur dans une série de Batman, et qui au pic de sa gloire a enregistré quelques chansons, dont deux dont la musique est de Frank Zappa.
Non.
Si, et donc il y a ce Teenage Bill of Rights, donc
quelle
de 66.
Ah ouais.
Voilà, donc écoute, si mes sources sont bonnes et tout, c'est bien la musique de Zappa. Les paroles, je sais pas, et donc c'est chanté, enfin, ou plutôt. Bon, enfin, on va l'écouter. Teenage Bill of Rights.
Fellow teenagers of these United States, it's time we got together and set the record straight. The spotlight of publicity is on the bad kid and the hood. You seldom hear or read about the thousands that are good. I don't say we should march all day or picket every night. I simply propose the following, a teenage bill of rights.
One.
Nothing we do should go unnoticed, not even the smallest deed. And no one should even question our color, race, or creed.
Two.
We should be recognized as leaders of tomorrow. It's just a small minority who go on causing sorrow.
Three.
Our parents have to learn to love us more and more, 'cause love gives us the strength we need to open any door. The right to listen, the right to disagree. After all, in your Bill of Rights, it says all men are free.
Five.
Well, let us think for ourselves, to have a mind of our own. The day may not be too far off when we'll have to stand alone. Guarantee that if we fight again, our sons, when they are 18, will not be fighting men.
Seven.
We'll work our heads off every day and every
us what we ask for in our teenage Bill of Rights. We only ask for 7, but we know that you have 10. But should we need the other 3, you'll hear from us again.
Comment t'as déniché un truc pareil?
Bah écoute, très, très je fort. L'ai déniché en fouinant quoi.
Ah ouais, t'as bien fouiné. Ouais.
Et donc voilà, ce Burt Ward, donc est né en 1945, c'est un acteur de télé et qui a eu son heure de gloire en faisant la série Batman entre 66 et 68, je crois.
Waouh, j'aimerais bien voir ça, le Batman de 66.
Voilà, et mal. Donc voilà, il y a eu, donc il a enregistré, comme j'ai dit, 4 pistes, 4 chansons, et en fait il y en a 2 en collaboration avec non, alors oui, il y en a 4, il y en a 2 qui ont été publiées et 2 qui sont restées inédites, et donc celle-là était avait pas été publiée à l'époque. Voilà.
Alors ben moi je te propose de directement enchaîner avec Teenage Lobotomy, dont je parlerai tout de suite après. Voilà, donc, alors c'était les Ramones, extrait de leur 3e album, Rocket to Russia, et donc, alors qu'en 60, bah, le punk, c'est 60, les mouvements punk, c'est 77, 78.
Ouais. Et c'est vraiment eux qui ont commencé le punk, hein, ouais. C'est les Ramones.
Enfin, bah, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, oui. Ouais. En Angleterre, c'était vraiment... Sid Vicious et Sex Pistols, je pense. Bah,
c'est par là, dans les années, en 77 aussi.
Ouais, c'est la même année, ouais. Je crois.
Bon, c'est vrai que c'est toujours difficile de dire qui a été le premier. Enfin, il n'y a jamais le premier. Enfin, c'est vrai qu'on les Ramones.
En tout cas, c'est vraiment pour moi un des trucs les plus ados qu'on puisse trouver. Quoi. C'est vraiment 1, 2, 3, 4. Et puis, c'est tout ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6 à un moment.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais, c'est possible, il y a peut-être une phrase qui est trop longue. Elle rentre pas dans les mesures de 4.
Ouais. Donc ils se sont dit, on s'en fout.
Voilà, c'est leur 3e album, 77. Donc ils en ont fait avant The Ramones, 76, et Leave Home, 77. Donc là, en 77, 2 albums sont sortis, dont celui-là. Et, Et voilà, bon, après, des exemples de musique toute droite et toute bien envoyée, bien adolescente, bien gueularde et en même temps simple et efficace. Il y en a des milliers, mais...
Ouais, c'est assez bon, ça.
Mais ça commence... Ça commence comme ça, quoi. Ouais. Et c'est assez marrant, quand même.
Et Teenage Lobotomy, donc c'est le nom du morceau. J'ai pas fait gaffe aux paroles.
J'ai un peu de mal à entraver ce qu'il raconte aussi.
Il dit quoi ? I'm a teenage lobotomy.
C'est ça.
C'est bizarre déjà.
Je suis un gros con d'adolescent. J'en ai rien à foutre et je vous emmerde en gros.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Alors donc, je vais enchaîner, toujours sur ce thème de l'adolescence, avec un tout autre genre de musique. Alors, je me suis intéressé, j'ai abordé ce sujet sous un angle très particulier et très resserré. Je me suis intéressé à l'attraction sexuelle pour les jeunes garçons. À l'homosexualité et à l'attraction pour les jeunes garçons.
De la part des vieux, forcément.
Parce que sans ça.
Donc, mort à Venise, malheur et compagnie. Quoi.
Ah, bah c'est génial parce que c'est marrant, oui, mort à Venise. Et c'est par ça que je vais commencer. Par l'opéra de Benjamin Britten, mort à Venise. Et en fait. J'ai amené aujourd'hui que des morceaux de Benjamin Britten, donc compositeur anglais, né en 1913 et mort en 1976.
Ouais, t'es quand même gonflé d'aborder le thème de l'adolescence avec un filtre aussi serré quand même.
Oui, mais tu verras que c'est absolument approprié. Parce que, j'aurai le temps d'en reparler.
Et subversif, attention. Parce que bon...
Oui. Alors, donc, je vais pas développer tout le sujet maintenant, parce que j'ai d'autres morceaux, donc j'ai tout le loisir de creuser ce sujet.
T'as amené Jean Genet, du André Gide...
Non, j'ai amené justement que du Benjamin Britten, parce que il me semble que c'est un compositeur qui... Enfin, c'est même évident, qui est fasciné par l'adolescence. Enfin, lui-même était homosexuel, et ce qui ne veut pas dire qu'on aime les adolescents, mais lui, c'est son cas, il était spécialement attiré par les adolescents. Et il y a même un bouquin qui est sorti à ce sujet-là, donc j'en reparlerai. Mais on commence par écouter son dernier opéra qui s'appelle Mort à Venise, dont le sujet est évidemment en plein dans le mille, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un écrivain allemand qui va à Venise pour travailler un roman et qui tombe en fascination et tombe amoureux en fait par un des jeunes, un adolescent qui est dans le même hôtel que lui avec sa famille et qui s'appelle Tadzio et qui est polonais. Voilà.
Tu as vu le film de Visconti ou pas ?
Alors je l'ai vu il y a très longtemps mais je l'ai un peu oublié et j'ai pas lu non plus le roman de Thomas Mann.
Qui est plus ou moins inspiré de la vie de Malheur. En fait.
Ah, alors ça, je ne savais pas.
D'un épisode, j'ai lu ça en préparant l'émission, en fait.
Ah oui.
La base, évidemment, c'est une fiction, le livre de Thomas Mann, mais la base, c'est une histoire. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Enfin, qui relate un épisode de la vie de Malheur.
Ah oui, d'accord.
En voyage à Venise.
Ah d'accord. Alors, donc, toujours est-il que cet écrivain tombe plus ou moins amoureux, en quelque sorte, de cet adolescent. Mais évidemment, c'est très ambigu. Mais bon, c'est évidemment, il s'agit d'une attirance sexuelle, mais enveloppée par un discours sur la recherche esthétique de la beauté.
Ouais.
Et donc, Britten a eu l'idée, que je trouve assez intéressante, de confier ce rôle de l'adolescent, non pas à un chanteur, mais à un danseur. Donc en fait, cet adolescent, Tadzio, ne chante jamais dans l'opéra de Britten, mais c'est un danseur et qui est toujours accompagné par une musique inspirée très nettement par le gamelan baliné.
Ah.
Et c'est donc à cette occasion, d'ailleurs, que j'ai appris que Britten avait fait un voyage au Japon et en Indonésie en 1956, par là, et avait été profondément marqué par les musiques de ces pays. Ce qu'on entend très bien dans cette scène de Mort à Venise, où l'écrivain observe ce jeune adolescent sur la plage et qui participe à un concours en fait de, un peu athlétique. Mmh. Et donc c'est à cette occasion qu'il est fasciné par sa beauté. Et donc on écoute cet extrait assez long mais que j'ai un peu coupé. Voilà, Mort à Venise, Britten.
Contemplate the sea, immeasurable, unorganized, void. I long to find rest in perfection, and is not this a form of perfection? Here comes Eros, his very self. I was not mistaken, it is very good. So the little Polish god is proud, proud like all his race. He is human after all. Thank you.
you. That is it from Thaddeus, short for Thaddeus.
Voilà, je chante discrètement parce que la scène est assez longue et puis on en a retiré l'essentiel. Non, mais je veux dire qu'on est arrivé à ce moment où il entend le nom de...
Ouais.
Il entend les enfants appeler ce bel adolescent Adziu et Tadziu. C'est un nom polonais en fait.
Oui.
Et donc il déduit que ça vient de Thaddeus. Et, enfin, bon, bref. Donc il découvre son nom, quoi. Et ouais, je trouve que c'est vraiment très beau. C'est son dernier opéra.
Ouais.
Et voilà.
Et bon, déjà, je voudrais corriger ce que, enfin pas corriger, mais un peu préciser ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a l'ombre de Gustav Mahler dans le livre de Thomas Mann, Mort à Venise, parce que Thomas Mann était particulièrement admiratif de Mahler et il s'est basé sur une photographie de Mahler pour décrire le personnage de l'écrivain.
Oui, c'est ça.
Et ouais. En fait, après, il y a Visconti, quand il a fait son film, il a transformé l'écrivain de la nouvelle en compositeur et il s'est beaucoup inspiré de Mahler à nouveau. Mais en fait, il y a rien,
oui,
à,
oui,
ça n'a rien
ça.
À voir
dans
avec
le film,
une anecdote.
C'est un compositeur, et, voilà. Et effectivement, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce film a été fait, je crois, en 71-72, au moment où Britten était en train de, en pourparler, enfin justement, était en train de composer cet opéra.
Ah oui.
Et il y avait des, et c'était pas évident en fait par rapport à la Warner, aux frères Warner qui produisaient le film de Visconti. Donc Britten avait pour on lui avait fortement recommandé de ne pas voir le film.
Ah oui.
Pendant qu'il faisait son opéra.
Effectivement, ouais. Et c'est un film c'est un film très étonnant, hein, parce que c'est une méchante méga production. Mm. Les images sont totalement affolantes, les tous les décors, les costumes, c'est complètement fou. Les plans mais par ailleurs, c'est un film c'est très long et c'est extrêmement lent. Et c'est vraiment tout, comment dire, j'ai un mot qui me sort, que j'ai pas là, en tête. Mais c'est étrange, moi ça m'a laissé une impression étrange, j'ai trouvé ça finalement assez chiant mais intéressant quand même. Quoi.
Mmh. Mmh. Moi je me souviens pas, mais effectivement maintenant ça me revient qu'il y avait la musique, l'adagio de la 5e symphonie de Mahler, en fait, qu'on entend dans tout le film.
Ouais.
Voilà.
Et oui, alors la question que je me posais, c'est comment un compositeur peut arriver à, dans les années 60-70, encore que ce soit à mon avis probablement plus facile à l'époque que ça ne serait aujourd'hui avec le retour d'un certain ordre moral, disons, plus ou moins plus, en tout cas plus lourd que ça était à l'époque, mais comment avec des thèmes et une est-ce qu'il a pu continuer à obtenir l'aide de l'État pour continuer à travailler et tout ça, parce que quand même...
Britten.
Ouais. Est-ce qu'il était alors, très seul et très abandonné toute sa vie, ou est-ce qu'il était quand même
très
soutenu?
Non, il a été... Enfin, je ne sais pas exactement, mais enfin, il a été de son vivant reconnu comme un grand compositeur, et en particulier par les Anglais qui en ont fait leur fierté, qui ont tout de suite, l'ont tout de suite considéré comme le plus grand compositeur anglais depuis Purcell.
Et, ah oui, carrément.
Et en plus, mais j'y reviendrai, mais bon, Britten ne cachait pas du tout
son
homosexualité, donc c'était de notoriété publique. Et, et effectivement, comme tu dis, enfin, je ne connais pas les détails, mais ça ne lui a pas apporté préjudice, mais j'en reparlerai parce que. Enfin bon, j'en reparlerai.
Alors, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire non plus l'adolescence entre adolescents, comme on a entendu dans les Ramones, mais la relation entre l'adolescente et sa jeunesse et sa beauté et l'homme mûr, je vous propose d'écouter un morceau que tu vas trouver tout seul.
Ah, je crois.
Voilà.
Enfin, il y a deux candidats, mais je pense que c'est ça.
Et essaye celui-là.
Les sucettes à la nuit. quelques pennies. Annie, assez sucette à l'ami. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes, les sucettes à l'ami, les sucettes à l'ami d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé.
Bon, alors évidemment, on ne raconte pas toute l'histoire, parce que vous, la plupart des auditeurs la connaissent, mais 1966, France Gall a 18 ans, elle chante cette chanson, c'est son premier tube, c'est Gainsbourg qui lui écrit, et puis quand la chanson sort, c'est le tollé général, elle se rend compte, alors que visiblement, elle ne s'en était pas rendue compte avant, ce qui paraît quand même absolument incroyable.
Ouais.
Que c'est un truc à double sens et que tout le monde l'entend différemment qu'elle et qu'elle s'est fait complètement avoir et voilà, le scandale est parti.
C'est marrant parce que il y a un truc quand même qui m'étonne. Donc quand elle dit pour quelques pennies,
ouais,
elle a ses sucettes à l'ani, je me dis normalement penny, ça devrait faire pennies.
En plus.
Ouais. Et ça, je pense que ça a été censuré, non? Parce que là, ça aurait l'allusion. Ça serait devenu encore trop trop voyant, quoi.
Non, non, c'est peut-être Gainsbourg qui lui a dit non, ne dis pas pénisme, dis penny, c'est mieux.
Parce que on dit un penny, d'ailleurs, non, mais on dit bien un pénis quand même.
One penny, two pennies.
Ouais, c'est ça, mais le pénis, on dit pénis. On dit
en pas... anglais, on dit pénis, oui.
Ah oui, aussi. Oui, c'est ça. Et en français aussi, on, en français pas, aussi, on prononce ouais. Le S. Hein,
penis.
Ouais.
Ouais. Oui. Oui.
Bon, bref, bah alors, c'est chouette, tu voulais continuer dans le même
ouais,
esprit.
Oui, sur le même thème, mais dans un tout autre esprit, mais vraiment très très différent. Je voulais profiter pour passer une des chansons de Georges Brassens que je trouve les plus fortes. Et c'est sur la même thématique, ça s'appelle La princesse et le croque-note.
Jadis, au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis, insolites, des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était les lits. La fine fleur, l'élite du pavé, des besognes, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tares, des chevaux de retour, des propres à rien. Ainsi qu'un croque-note, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adopté par ce beau monde attendri,
une petite fée avait fleuri. Au milieu de toute cette bassesse, comme on l'avait trouvée près du ruisseau, abandonnée en un somptueux berceau. À tout hasard, on l'appelait princesse. Or, un soir, Dieu du ciel, protégez-nous. La voilà qui monte sur les genoux du croquenote et doucement soupire. En rougissant quand même un petit peu, c'est toi que j'aime et si tu veux tu peux m'embrasser sur la bouche et même pire. Tout beau princesse, arrête un peu ton tir, j'ai pas tellement l'étoffe du satyre. Tu as 13 ans, j'en ai 30 qui sonnent. Grosse différence, et je ne suis pas chaud pour tâter de la paille humide du cachot. Mais croque-note, je dirai rien à personne. Oh, oh, ne. N'insiste pas, fit-il d'un ton railleur. D'abord, tu n'es pas mon genre, et d'ailleurs, mon cœur est déjà pris par une grande. Alors, princesse est partie en courant. Alors, princesse est partie en pleurant. Chagrine qu'on ait boudé son offrande en deux. Il n'y a pas eu détournement de mineur. Le croque-note au matin de bonne heure à l'anglaise a filé dans la charrette. Des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette.
Super chanson avec très jolie fin.
Ouais, c'est une très très c'est une très jolie chute, et une jolie chute et une longue introduction, et c'est chouette comme elle écrit cette chanson, je trouve. Et puis du coup, c'est plein de par rapport à au sujet que dont tu parlais tout à l'heure, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, les émois adolescents, c'est quand même un sujet tendu, enfin difficile, et voilà. Et du coup, ça donne un regard à cette question qui est intéressant, je trouve.
Ouais.
Je trouve qu'elle est super, cette chanson, et ça répond à pas mal aux conneries de Gainsbourg juste avant, et puis aux questions qu'on se posait sur Britton aussi.
Oui, oui. Et effectivement, c'est un sujet dans cette chanson qui est abordé sous un angle... pas du tout glauque comme ça pourrait l'être, enfin.
Ouais.
Mais néanmoins, il a peut-être eu des petits soucis avec cette chanson, Brassens.
Bah, je sais pas. Je crois qu'il a jamais eu. Enfin, si, il a toujours eu des problèmes avec la censure, mais en même temps, il s'en est toujours sorti. Il est resté, il publiait ses disques et puis c'est tout. Puis passer à la radio, ça l'a jamais intéressé.
Ouais.
Je crois qu'à part les quelques tubes qu'il a fait, la radio, c'était pas trop son média. Et puis après, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle aurait pu être il y en a plein de chansons de Brassens qui ont dit.
Oui, bon, celle-là
interdite.
En fait est très bon. Elle reste assez mignonne.
Oui, oui, mais enfin, elle est mignonne. En même temps, elle est sérieuse quand même.
Oui.
Et puis assez dure.
Ouais.
Mais c'est vrai que la question, en fait, la question que ça soulève, c'est la comment dire, la la fragilité et en même temps la brutalité des émois amoureux chez les adolescents et la façon dont on dont les ceux qui ont grandi peuvent en profiter ou en tout cas les susciter.
Ouais,
c'est ouais. quand même connaît tous ça et c'est toujours là dans notre dans notre vie, dans notre entourage, ouais. c'est une vraie question quoi.
Alors donc je continue avec toujours cette même question mais abordée à travers la vie et l'œuvre de Benjamin Britten et qui donc a été attiré tout au long de sa vie par par des adolescents et à tel point enfin que en fait il y a même un Anglais John Bridcutt qui a écrit qui a publié en 2006 un livre consacré uniquement à cette question et ça s'appelle Britten's Children et donc qui recense un peu tous les adolescents qui ont parcouru la vie de Britten et qu'on retrouve en fait dans la plupart de ses œuvres soit on retrouve par le prénom des personnages et en tout cas Britten a souvent mis en scène des personnages d'adolescents. Et lui-même disait qu'il écrivait si bien pour les enfants, parce que, enfin pour les jeunes, pour les adolescents, parce que lui-même se sentait un adolescent de 13 ans.
Ouais.
Et donc 13 ans pour lui, c'était certainement un âge qui représentait pour lui une sorte d'idéal. Et donc... Alors, il y a été. Alors, une fois. Alors, bon, je rentre dans les ragots et les faits divers, mais. Il a été. Tous ses amours avec ses adolescents ont été platoniques, pense-t-on. Il a été, cependant, une fois, quand même, accusé d'abus sexuels.
Mmh.
Et. Voilà. Et. Alors, attends, parce que j'essaie de retrouver. Oui, alors, c'était. Un garçon qui s'appelait Harry Morris et à ce moment-là Britten a écrit l'opéra qui s'appelle Albert Herring et il a confié le rôle il y a un personnage qui s'appelle Harry qui est un adolescent dans cet opéra mais qui n'est pas le personnage principal mais donc en tout cas il l'a appelé Harry en référence à cet adolescent qu'il avait aimé. Et mais pourquoi j'ai choisi Albert Herring ? En fait, c'est pas à cause de cette anecdote de ce personnage dont le nom vient d'un adolescent qui aimait Britten, mais plutôt à cause du sujet de l'opéra qui me semble vraiment en plein dans le mille. Parce qu'en fait, c'est un sujet sur le passage à l'âge adulte. C'est un opéra sur le passage à l'âge adulte. Donc c'est une comédie. C'est un opéra qui date de 45 et l'histoire, en fait, c'est que bon, c'est dans un village ou une bourgade. Il y a la fête de mai qui arrive et donc il faut élire la reine de mai. Mmh. Et en fait, il y a une personne qui propose des reines de mai. Et puis, il y a une autre vieille peau qui, à chaque nom proposé, dit non, celle-là, elle est complètement dépravée. Enfin, qui trouve toujours une raison de refuser. Et quand ils ont fait le tour de toutes les filles du village, et il n'y en a aucune qui convient, et donc ils décident, on va élire un roi de mai. Et ils pensent à Albert Herring, qui est un jeune gars tout innocent, tout naïf, tout nigo, tout timide. Et ils pensent que la moralité est sauve. Il est aussi innocent que toutes les jeunes filles du village sont dépravées. Et donc il est roi de mai. Et donc il prononce un discours, on le fait boire un peu, donc il est un peu éméché. En rentrant chez lui, bourré, il entend Sid et Nancy, Sid qui fait la sérénade à la jolie Nancy.
Ouais.
Et il s'embrasse et il voit tout ça et il en est malade parce que lui, il aime bien Nancy, mais il est trop timide c'est vraiment un ego. Et puis il dit c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, faut que je connaisse, j'ai raté toutes ces années, il faut que je découvre un peu la vie, l'amour, tout ça. Et donc il s'en va de chez lui et il s'en va faire la noce. Et puis à la fin de l'opéra il revient tout triomphant, c'est devenu un homme, voilà. Et donc là, je vous fais écouter la scène où justement il prend cette décision après avoir entendu Sid et Nancy s'échanger des mots doux et s'embrasser. Et donc le moment où il prend la décision d'aller de sortir et de revenir en homme mûr.
Quelle année cet opéra ?
1945.
Ah ouais.
Donc on écoute ça, un extrait de la scène 2 de l'acte 2.
Very
un tout petit peu avant la fin parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, puis en fait la scène se termine. Voilà, donc c'était un extrait de Albert Herring, donc sur le de Benjamin Britten, sur le thème vraiment du rite de passage un peu. D'ailleurs, j'avais pensé à un moment, à l'âge adulte, j'avais pensé à un moment faire l'émission avec que des musiques initiatiques de rites de passage d'Afrique ou d'Asie, ou de partout.
Dédé aurait probablement été...
Ouais, plus à même de... plus apte à...
Un bon secours pour ça.
Ouais, ouais. Ouais.
Bien, alors moi j'ai choisi, j'ai souhaité quand même passer un morceau du groupe, attention, Nirvana, bien sûr.
et oui.
Évidemment. Mais je ne vais pas vous faire écouter Smell Like Teen Spirit ou le premier album, mais une reprise de... Smell Like Teen Spirit, oui, de Nirvana, par, alors il y en a plein, il y avait le Ukulele Club de London, il y avait Patti Smith et autres chanteuses qui reprennent cette chanson de façon plus ou moins mielleuse. En fait, le groupe américain de Los Angeles, de Melvins, dont j'ai déjà passé pas mal de morceaux il y a longtemps, dans cette émission, a fait un album de reprise et ils ont repris cette chanson. Alors, il se trouve que l'histoire de Nirvana et des Melvins est assez connectée parce que Buzz Osborne était très copain avec... comment s'appelle-t-il ? Oh bah merde. Je connais que son nom, mais c'est...
Oh bah merde.
Avec le chanteur de Nirvana, bien sûr. et en fait, il y a des histoires sombres qui circulent sur l'origine de sa mort, patati patata, on s'en fout. Par contre, ils étaient assez amis, en tout cas, donc le chanteur de Nirvana, ça va revenir, était...
Je ne veux pas t'aider, en tout cas.
C'est vrai.
Pas sur moi.
Kurt Cobain était extrêmement admiratif du groupe de Melvins. Il adorait leur musique. Et est très influencé par eux, même si ça ne s'entend pas forcément. Et donc, très très longtemps plus tard, après la fin de Nirvana, après la mort de Kurt Cobain, The Melvins a fait une reprise de cette chanson avec au chant un mec qui s'appelle Liv Garrett, qui est un espèce d'acteur obscur, acteur de série B, qui a eu que des problèmes, qui a justement foiré son adolescence, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait les conneries qu'on a tous fait, mais il en est jamais sorti et il a une vie assez brûlée, assez cramée, assez naze aussi, parce qu'il a jamais vraiment... Il a fait un peu de musique, un peu de comédien. Enfin, il a eu quand même un certain succès, mais il est resté toujours empêtré dans des affaires de drogue et des affaires de mœurs. Enfin, c'est une espèce de ce genre de personnes qui n'arrivent jamais à sortir de leur crise d'adolescence, quoi.
Ouais.
On écoute rapidement ça. C'est pas génial, mais c'est l'occasion d'écouter Melvins et en même temps cette chanson de Nirvana qui est quand même assez symptomatique de l'adolescence.
We'll be right back.
Voilà, et alors forcément sur le même thème.
Ah. Sur le même thème.
Et venez les potes, venez chez moi, y'a pas papa. Et venez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et venez les filles, bijou chouchou, liti gata, coucou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la, voilà papa. Et dis Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la, voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut crotte avec Yana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétus, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Voilà, c'était donc The Melvins qui jouait Nirvana et bien sûr Bobby Lapointe et Venez les potes.
Ouais, c'était chouette, j'ai rien compris parce que j'étais un peu occupé à essayer de préparer ce que j'allais dire sur Britton et pas m'embrouiller comme tout à l'heure.
Ah, pour tu t'es pas du tout embrouillé tout à l'heure ?
Si, mais c'est pas grave, je me suis embrouillé dans le côté anecdotique et dans les noms des adolescents, oui. Mais on s'en fout, en fait on s'en fout complètement de cet aspect-là de l'affaire. Oui. Donc j'espère que pour le reste, ça allait.
Oui, bien sûr.
Donc, on va terminer. Alors, j'avais prévu d'amener aussi un extrait de Billy Budd, un opéra de Britton tiré d'une nouvelle de Melville, Herman Melville,
ouais.
Qui est fantastique. Et, mais finalement, je vais vous passer un extrait de l'opéra The Turn of the Screw, le tour d'écrou, que j'ai déjà amené dans cette émission parce que je l'ai déjà dit, mais j'en profite de cette émission pour le redire. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Britton. Ça, c'est, s'il n'avait pas écrit ça, je pense que je ne me serais pas autant intéressé à ses autres œuvres parce que ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre sur tous les plans. Et par rapport à notre thématique de l'adolescence, bon, évidemment, ça a été créé par un jeune. Enfin, parce qu'il y a deux rôles d'adolescents. Donc, le rôle de Miles a été créé par un adolescent que Britton a aimé, mais bon, ça, on s'en fout, c'est le côté anecdotique. L'histoire, pour aller vite quand même, pour situer un peu le rapport à l'adolescence. Donc, ces deux adolescents, Miles et Flora, sont envoyés par leur c'est des orphelins et ils sont envoyés par leur tuteur
chez un garçon et une fille, hein.
Voilà, c'est ouais. Ça, chez une gouvernante et une préceptrice qui vont s'occuper d'eux. Et donc ils arrivent dans une maison et en fait ils vont être un peu ensorcelés par deux esprits, deux fantômes en quelque sorte, les esprits des revenants de deux anciens domestiques qui avaient servi dans cette maison, Monsieur Quint et Mademoiselle Jessel. Et en fait, ces deux revenants vont essayer de s'emparer un peu de l'esprit des jeunes adolescents et d'instiller le mal en eux, enfin en tout cas des sentiments troubles. Et donc c'est d'après une nouvelle d'Henry James, bon, l'histoire est très embrouillée, c'est très ambigu d'ailleurs, c'est très beau, mais c'est très compliqué à démêler, ce qui est vrai, ce qui est imaginaire, etc. Mais enfin, en tout cas, le thème, c'est effectivement... que ce Peter Quint, cet esprit, va essayer de prendre le jeune Miles sous son influence. Et ce qu'on va écouter, c'est un extrait où, en fait, Miles s'étant fait renvoyer de son lycée pour une raison qu'on ne comprend pas trop, sa gouvernante décide finalement, la mort dans l'âme, d'écrire au tuteur de Miles et Flora pour les avertir. Et ça lui pèse sur le cœur parce qu'elle s'est prise d'affection pour Miles et elle sait que ça signifie peut-être que donc le tuteur va devoir rappeler Miles. Et Miles lui-même ne voudrait pas inconsciemment donc, que cette lettre parvienne à son tuteur parce qu'il a été séduit par l'esprit de Quint, l'esprit maléfique et séducteur de ce revenant, de cet ancien domestique. Et donc la scène qu'on écoute, c'est la gouvernante qui rentre dans la chambre de Miles et qui lui dit « Voilà, j'ai écrit à ton tuteur ». Et en fait, elle sent que Miles est complètement absent. En fait, il est envoûté, il est en train de communiquer avec l'esprit de Quint. Donc elle dépose la lettre sur son bureau et elle quitte la chambre. Et à ce moment-là, Miles, Quint, donc l'esprit malin, parle à Miles et lui dit « Prends la lettre, take it, prends la lettre et jette-la. Mm. » Comme ça, Miles pourra rester et il pourra continuer à l'envoûter. Et donc là, musicalement, c'est magnifique, comme tout cet opéra. Donc je vous fais écouter un extrait. Pardon, j'ai envoyé Billy Budd. Voilà. Voilà, on coupe rapidement pour dire au revoir parce que c'est la fin de l'émission.
Ouais.
À la semaine prochaine. She has told all she
Thank you.